Bonjour à toutes et à tous partout dans le monde. Merci d'être ici pour le troisième webinaire de la série webinaire FPF sur comment compléter le budget. Nous allons commencer dans quelques minutes aujourd'hui pour la session numéro 3 de notre série de webinaires FPF, nous allons passer en revue comment compléter le modèle de la feuille de calcul et Excel. Avant de commencer, quelques précisions pour l'interprétation en français, espagnol ou arabe. Veuillez cliquer sur le bouton d'interprétation qui se trouve en bas à droite de votre écran Zoom. Et veuillez noter que vous ne pourrez accéder à l'interprétation que à travers l'audio de votre ordi. Et pour Naïm et pour nous qui serons les présentateurs d'aujourd'hui, il faut parler tout doucement pour ne pas compliquer les choses pour nos interprètes. Merci de la part des interprètes. Il y aura un enregistrement de la session dans les quatre langues qui sera téléchargé dans notre site Internet dans les jours suivants. Ce sera une ressource à laquelle vous pourrez revenir et que vous pourrez aussi partager avec vos collègues qui travaillent spécialement avec vous sur le fait de compléter la feuille de calcul. Nous n'avons pas des diapos pour la présentation car nous allons utiliser le modèle, la feuille en elle-même, et nous allons expliquer comment compléter la feuille au fur et à mesure que nous avançons. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les afficher dans le chat. Nous y répondrons à la fin de la séance ou sinon à ce moment-là, vous allez pouvoir allumer votre micro si vous le voulez et poser votre question oralement. Donc, pour la session d'aujourd'hui, je vais parler sur le budget en général et puis je vais passer la parole à mon collègue Nahir qui va décrire les détails de la feuille de calcul Excel. Avant de commencer, quelques précisions techniques et pratiques en matière de préparation budgétaire. Tout le budget et en fait toutes les candidatures doivent être complétées dans le modèle du fonds LCI et les fiches Excel. Cela comprend aussi le budget de financement flexible. Nous ne pouvons va accepter des candidatures qui soient dans d'autres formats. Donc, la raison pour laquelle nous avons amélioré les modèles, c'est ça, et nous avons introduit ces améliorations à travers notre programme. Nous avons appris à partir des erreurs et nous avons retrouvé des meilleures façons d'expliquer les informations que nous nécessitons aussi. Et pour minimiser les erreurs et être vraiment clair sur exactement les fonds qui sont requis, nous avons ajouté des informations supplémentaires dans nos feuilles explicatives aussi. Et tous nos modèles, y compris le modèle Excel et les documents explicatifs. Ce sont des documents qui sont disponibles maintenant dans le site Internet. Je vais vous montrer où vous pouvez vous adresser pour retrouver ces documents-là de manière directe. Donc, dans le site Internet LC Initiative Fund, dans le Third Programming Round, c'est-à-dire la troisième ronde de programmation, vous allez retrouver tous les modèles et tous les documents explicatifs ici. Donc, la première section, c'est pour les collègues et les pays qui se sont présentés pour le financement MOIP en tant que candidats. Et la deuxième section, ici, nous avons tous les modèles disponibles ici pour le PRODOC et le document explicatif, le budget et le document explicatif budgétaire en anglais et en français. Et nous sommes sur le point de finaliser la traduction en français pour l'évaluation de risque de projet. Nous avons le modèle ainsi que le document explicatif. Et lorsque l'on avance dans la liste, pour ceux d'entre vous qui sont TPCC, qui se sont présentés pour une candidature premium d'unité de genre, ces modèles seront téléchargés ici. Et nous avons ici les lignes directrices de communication qui seront téléchargées la semaine prochaine. Et vous allez pouvoir voir toutes les présentations. Nous n'avons pas de présentation ici, mais pour l'enregistrement, vous allez retrouver les copies de l'enregistrement ici. Donc, vous pouvez descendre tout au long de la liste. C'est une liste assez longue. Donc, veuillez être patient pour ça. Donc, maintenant, passons au modèle, à la feuille en elle-même. On la voit ici. La voilà. Donc, encore une fois, le modèle est dans un format Excel et je vais l'élargir un tout petit peu ici. Donc, je vais fournir quelques conseils sur comment achever, comment compléter cette feuille. Pour ceux qui se sont connectés, vous vous êtes présenté comme candidat pour le financement flexible pour une proposition de projet qui a été envoyée au secrétariat du fonds à travers une lettre d'intérêt. Eh bien, tous les prérequis ou les requis de financement, les candidatures de financement flexible, nous allons travailler avec vous pour nous assurer que votre projet adresse les barrières qui ont été identifiées dans votre rapport MOIP. Donc, il y aura un certain espace pour négocier et pour changer la donne un peu selon quelle a été votre proposition finale du projet par rapport à ce que vous avez mis dans votre lettre d'intérêt. Donc, je crois que notre guide passe par définir la portée, les objectifs de votre projet et nous allons travailler avec vous dans la réunion de commencement et dans les réunions suivantes pour être vraiment clair sur la portée et les objectifs de votre projet. Donc, avant de commencer avec la budgétisation, vous devez bien comprendre quelle est la portée et les objectifs et quels sont les objectifs de votre projet. C'est pour ça que nous vous demandons de décortiquer votre projet dans les tâches, les différentes tâches, les différentes activités de votre projet. Cela vous permettra d'estimer les ressources nécessaires pour chaque activité, pour chaque composante de votre projet et cela évitera ce que nous appelons les surprises budgétaires plus tard. Lorsque vous ferez ça et lorsque vous travaillerez sur les différents points, les différentes lignes, nous avons besoin que dans la colonne L, vous fournissiez une explication très claire de ce que ça veut dire par chaque ligne. Par exemple, vous devez décortiquer les activités pour éclaircir les dépenses. Par exemple, nous, si vous planifiez une conférence, nous nécessitons que vous décortiquer chaque aspect, par exemple. Donc, on ne peut pas tout simplement écrire conférence à 20 000 dollars. Il faut, par exemple, les diviser et les décomposer, les désagréger. Donc, pour chaque activité, nous vous demandons d'être très conservative dans les calculs de coûts et là où il est possible, utiliser un site de TPCC, c'est-à-dire un site appartenant aux forces armées ou à la police, par exemple, au lieu de, par exemple, embaucher un hôtel. Parce que ce type d'endroit peut être un peu coûteux. Il faut désagréger le coût aussi pour inclure, par exemple, la nourriture pour, par exemple, 15 personnes. Pour une journée, et Naïm va expliquer comment tout ça marche, mais j'aimerais, ce que je fais maintenant, c'est de expliquer ce que ça veut dire par chaque point. À ce point-là, par exemple, il faut considérer aussi les dépenses journalières. Par exemple, si on calcule qu'il y aurait 10 femmes qui seront dans la conférence, ou par exemple, il faut embaucher une consultatrice de recherche. L'idée ici, c'est d'utiliser les taux des dépenses journalières gouvernementales là où il est possible, d'accord? Donc, prenez votre temps de faire votre recherche, de recueillir les estimations des coûts pour chaque estimation du projet, y compris les matériaux, la main-d'œuvre, les équipements et toutes autres ressources requises et les désagréger pour chaque activité. Prenez du temps pour consulter avec les fournisseurs et les experts de l'industrie pour avoir des informations exactes sur les prix. Et il faut aussi calculer l'inflation ou les fluctuations de coûts tout au long de la durée de votre projet. Il faut considérer les coûts qui ne peuvent pas être soutenus par le fonds ou par le système de l'ONU. Naïm va expliquer tout ça dans un plus grand détail. Et également, il faut être très soigneux des coûts qui ne peuvent pas être soutenus ou affrontés par le fonds. Et il faut s'assurer que le coût soit réaliste, n'est pas surcalculé, par exemple, éviter de les surcalculer. Donc, je vais passer la parole à Naïm qui va parler des aspects techniques sur l'achèvement de la feuille de calcul Excel. Naïm, au micro. Merci, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Comme ma collègue a dit, je vais passer en revue les détails techniques de ce modèle budgétaire en Excel et je vais parler aussi de ce que le fonds ELSI peut financer et ne peut pas financer. Je vais également parler des catégories du GNU de le groupe des Nations Unies pour le développement, comme vous les voyez ici dans le modèle. Et je vais aussi créer un budget d'exemple, un exemple de budget pour fournir davantage d'informations et de clarté sur comment ce modèle marche, comment il fonctionne et comment vous pouvez retrouver les erreurs. Il y en a quelques-unes. Ce modèle a été conçu selon les requis de l'ONU pour les rapports de l'ONU. Comme vous le voyez, il y a trois feuilles dans ce modèle. La toute première est celle du budget et vous devez insérer d'autres informations dans cette feuille-là. Ensuite, nous avons le résumé du GNUD. Vous ne devez pas insérer des détails ici de manière manuelle parce que c'est un calcul qui s'est fait de façon automatique à travers les formules qui sont déjà insérées dans le modèle. Et le troisième volet, ce sont les listes. Voilà les catégories du GNUD et nous utilisons cette liste pour établir cette liste ici. Cette liste est en fait protégé et si vous essayez d'insérer quelque chose, ce ne sera pas permis, donc il ne faut pas insérer des choses ou des informations de façon manuelle parce que ce n'est pas possible. La seule page que vous allez compléter, c'est celle-ci, c'est la feuille ou l'onglet budgétaire.
Avant de passer au reste des détails de ce modèle, je vais parler de ce que l'EIF peut financer et ce que l'EIF ne peut pas financer. Voilà l'explication. Vous avez une liste ici, vous pouvez l'accéder avec tous les détails, mais je vais très rapidement décrire les activités principales qui peuvent être financées et qui ne peuvent pas être financées. L'EIF ne peut pas financer l'achat d'un véhicule, d'une voiture. Vous allez voir que dans les catégories GDNU, il y a des catégories spécifiques de véhicules, mais l'EIF ne peut pas financer l'achat d'un véhicule. Vous avez ici la liste de munitions, etc., les cadeaux pour le personnel gouvernemental et le personnel militaire. Nous ne pouvons pas financer l'achat d'alcool ou des cadeaux. Ce que nous pouvons financer, c'est par exemple le loyer d'une voiture pour le projet et d'autres coûts qui incluent, mais ne sont pas limités à cela, des activités de formation telles que la location de salles de conférence, du matériel de formation, d'éducation ou de communication. Mais si on offre des repas ou des rafraîchissements, il faut toujours considérer les coûts. Ils doivent être modestes. L'achat d'un logiciel de compatibilité pour gérer et comptabiliser la subvention, le recrutement d'un consultant ou d'une organisation de la société civile pour dispenser une formation. On peut financer des coûts raisonnables pour l'hébergement pour les militaires ou les policiers qui doivent voyager et où l'hébergement n'est pas disponible sur la base. Et pour les fonctionnaires du gouvernement, et ils ont besoin de dépenses journalières ou d'honoraires, mais il faut savoir qu'ils doivent être appuyés par une copie de la politique du gouvernement sur le paiement et l'harmonisation du paiement des honoraires pour faire en sorte que tout soit harmonisé. Donc voilà quelques aspects. Vous pouvez bien sûr le lire en détail. Tout cela est présenté sur notre site web. Si on revient au modèle Excel, vous pouvez voir que tout d'abord, ce que vous voyez ici, c'est le taux de change. Donc, si vous allez utiliser ou si vous allez dépenser dans votre monnaie locale, vous devez inclure ici le taux de change. Nous recommandons d'utiliser les indications de votre banque centrale à l'heure de préparer et soumettre ce budget. Ne vous préoccupez pas pour les fluctuations du taux de change si il est différent à l'heure de faire le transfert de l'argent. Pas de problème parce que nous pouvons aborder les différences ou les fluctuations du taux de change à la fin de l'année. Mais ici, il faut inclure le taux de change à l'heure de soumettre ce budget. Et vous devez inclure le nom de la monnaie nationale ici. C'est très important de le faire. Je vais décrire chaque colonne Nous avons les activités ici dans la première colonne, les tâches principales. Je ne vais pas les décrire en détail. La colonne B sont les points qui correspondent à chaque activité. La colonne C, c'est la catégorie de GDNU. Ça, c'est très important parce qu'il faut choisir la catégorie adéquate de ce menu et de cette liste qui apparaît ici. Vous ne pouvez pas rentrer des informations manuellement. Si vous essayez de le faire manuellement, ça ne le vous permettra pas. Donc, il faut choisir de la liste. Si vous changez cela et cette catégorie n'apparaît pas dans la liste, si vous choisissez la catégorie incorrecte, le reste sera cette erreur sera reflétée dans le reste du budget. Donc, c'est très important de bien le choisir. Je vais parler des catégories GDNU dans le reste de la présentation plus tard. Dans cette colonne, vous pouvez avoir l'unité et la colonne E, la quantité, le nombre d'unités dont vous avez besoin. Dans la colonne G, vous avez le prix par unité en monnaie nationale. Donc, de la colonne A jusqu'à la colonne G, vous devez remplir ces données. Vous devez compléter toute cette partie. À partir de la colonne H, c'est très clair. Il y a une instruction très claire de ne pas remplir des données manuellement dans ces colonnes. Donc, il ne faut pas remplir ces informations, ces chiffres manuellement parce que ça se fera automatiquement à travers le système. Et dans la colonne L, la dernière colonne, comme je viens d'expliquer, il faut justifier et inclure des commentaires et des détails pour comprendre pourquoi le montant est celui que vous avez inclus. Puis, on passe à la partie supérieure de la feuille et vous pouvez trouver ici le 5% de coûts de contingence, par exemple, et le 7% des coûts indirects qui s'appliquent seulement aux agences de l'ONU lorsqu'ils présentent une candidature pour recevoir des fonds. Ici, le calcul se fait automatiquement, vous ne devez rien remplir ici. Et ça se calcule automatiquement. Ensuite, je vais vous montrer si vous devez ajouter une colonne. Non, les colonnes sont standardisées, mais peut-être vous devez remplir ou bien vous devez ajouter une ligne ou peut-être vous devez ajouter une activité. Qu'est-ce qui se passe si vous devez ajouter une ligne? Vous faites clic avec le bouton 3 et vous sélectionnez Insert et cela va vous permettre d'ajouter une ligne ici. Si vous devez ajouter une nouvelle activité, ce que vous devez faire, c'est copier cette activité, par exemple ici. Vous pouvez sélectionner Copy, copier et puis inserter, insert. Donc, vous avez une nouvelle activité ajoutée ici et tous les calculs seront automatiques ici dans ces colonnes, par exemple. Vous pourrez voir que tout cela vient de ces lignes ici. Donc, vous pouvez inserter des lignes et des activités complètes. Probablement, vous n'aurez pas besoin d'ajouter des colonnes. En général, c'est très standardisé. Je vais maintenant parler des catégories du GDNU, du groupe de développement durable des Nations Unies. C'est dans la dernière partie du document. Vous pouvez voir que les sept principales catégories sont TCC ou PCC. Et si les agences de l'ONU s'appliquent au fond, ils devront utiliser la dernière catégorie qui est le soutien indirect. Donc, pour ces deux, n'utilisez pas cela pour soutenir les coûts indirects, mais je vais l'expliquer plus en détail. Donc, chaque catégorie du groupe de développement durable de l'ONU, donc la catégorie numéro un, c'est le personnel et les coûts de personnel. Donc, les coûts de ressources humaines doivent être calculés ici dans cette partie. Numéro 2, ce sont les produits, les fournitures, les produits et les matériaux. En général, tous ces coûts directs doivent être inclus ici. Par exemple, des produits pour des produits en papier, etc., doivent être inclus ici, mais je vais le mentionner plus en détail. La catégorie 3, ce sont des équipements, des véhicules et le mobilier. On mentionne les véhicules ici, mais vous vous rappelez que je vous ai dit que le EIF ne peut pas financer des véhicules. Donc ici, ce sont des produits ou des articles non consommables ou bien des articles médicaux. La catégorie 4 se consacre sur les services contractuels. En général, il y a un peu de confusion entre la catégorie 4 et la catégorie 1. La catégorie 4, services contractuels, sont des services contractés par une organisation, pas avec ressources humaines. Donc, si vous devez embaucher les services d'une entreprise pour fournir, par exemple, des rafraîchissements dans un événement, ou bien vous devez contracter les services d'un hôtel pour organiser un événement, ça, c'est dans la catégorie 4. La catégorie 1, ce sont des contrats du département de ressources humaines. La catégorie 5 sont les déplacements, les voyages du personnel. Numéro 6, c'est les transferts et les subventions aux contreparties. Lorsque vous avez une ONG, une OSC à laquelle vous devez faire un transfert d'argent, ça c'est dans cette catégorie. La catégorie 7, ce sont les frais généraux de fonctionnement et autres frais directs. Ici, nous avons un tableau et une liste de tous les coûts qui doivent être inclus dans cette catégorie et vous pouvez la lire en détail, bien sûr, dans ce document. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie 8, les coûts de soutien indirect, qui s'appliquent seulement aux agences de l'ONU. Et ils vont représenter exactement 7% des dépenses directes. Cela est calculé automatiquement dans le modèle d'Excel. Lorsque vous préparez le budget, les deux types de budget, vous devez éliminer cette ligne. Mais sinon, vous pouvez la laisser ou vous pouvez l'ajouter parce que cela sera calculé de manière automatique. Très bien. Donc, à continuation, je vais montrer un budget, un exemple de comment préparer un budget, une simulation. Bien sûr, imaginons que vous avez ajouté toutes les activités, peut-être vous avez déterminer la catégorie GDNU et vous avez ici les chiffres, la quantité. Imaginons que vous avez besoin. C'est important de vous rappeler que la colonne E et F ne peut pas être vide et ne peut pas être zéro. Si vous n'avez pas de quantité ici, vous devez remplir 1. Ça ne peut pas être zéro. Parce que si cela est zéro, ou si cette catégorie aux cellules est vide, on ne pourra pas calculer cette partie-là, cette colonne. Donc, par exemple, vous avez besoin d'un ordinateur ou 5 ordinateurs. Le coût est, par exemple, 100, 1 000 dollars, par exemple, ou 1 000 de votre monnaie locale. Le prix total est calculé automatiquement et le dollar aussi est calculé sur la base de ce taux de change. Et le sous-total ici, comme vous pouvez voir, est calculé ici. Donc, je vais remplir quelques chiffres.
Et voilà la monnaie. Par exemple, nous avons besoin du personnel, nous avons besoin d'une personne durant 6 mois. Nous disons qu'il s'agit que le prix unitaire est de 4 000 dans la monnaie locale. Nous en avons besoin d'une autre ici pour cette ligne, pour les services contractuels. Nous avons 5 000. Voilà le prix unitaire. Même chose pour les provisions, les matières premières, les matériaux, les provisions de papeterie, par exemple, 500. Même chose ici pour cette ligne. Nous avons besoin encore une fois de provisions. 500, on met 500 transferts ou virements de subventions. Disons que c'est 1, la quantité et le prix unitaire en monnaie locale, c'est des 20 000. Ici, nous avons besoin, nous devons sélectionner la catégorie du jeune de, sinon le système ne va pas le reconnaître. On va choisir, voilà, ceci, c'est un pour ce personnel, staff, personnel. Ici, même chose ici, quantité 5, quantité d'unité 1, 3 000. Ici, on met l'information, voilà les déplacements. Travel, déplacement, service contractuel, réaffiche, ressaisit la quantité, le prix unitaire dans la monnaie locale, le coût d'opération, les coûts généraux d'opération, le prix unitaire en monnaie nationale, 1 000, c'est-à-dire que les données doivent être insérées dans ces 3 colonnes que je vous montre, le reste calculé automatiquement, y compris le sous-total et le total. Ici, la formule nous manque. Mais lorsque vous afficherez l'information, si vous voyez ici, qu'il y a quelque chose qui manque ou qui n'est pas reconnu par la formule, ce que vous pouvez faire, c'est de descendre avec votre curseur. Vous pouvez sélectionner la cellule pour copier la formule. Si on descend à la partie inférieure de la feuille, vous allez pouvoir voir ces pourcentages à 5%, 5% de contingence et nous calculons ici en 7% de coûts indirects. C'est quelque chose qui est aussi calculé automatiquement. Par conséquent, voilà le total en monnaie locale et ici, nous avons les JOD. JOD, c'est la monnaie de la Jordanie, la monnaie locale de la Jordanie, mais ça peut être inséré dans n'importe quelle monnaie et le montant total est calculé dans la monnaie locale ainsi que dans des dollars. américain. Donc, voilà le total après avoir inclus le coût de 7%. Mais si ce n'est pas une urgence de l'ONU, c'est une ligne qu'il faut supprimer. Si on va à la page ou à l'onglet résumé du GNUD, vous pourrez voir que les calculs ont été ajoutés de façon automatique et même chose pour le pourcentage du budget, c'est-à-dire quel est le budget de chaque ligne dans le total du budget. D'accord? Donc, vous devez vous assurer que le total que nous avons ici coïncide avec cet autre total. Si ces deux chiffres ne coïncident pas, donc il y a quelque chose qui ne va pas bien avec le budget et nous devons découvrir ce qui s'est passé. Bien sûr, nous devons détecter l'erreur. Encore une autre chose. Par rapport aux coûts indirects, ici, ils sont calculés comme 7% du budget total. Mais dans le résumé du GNUD, dans cette page-là, et ces coûts indirects sont calculés comme un pourcentage de 6,5 à 4. Si nous avons des coûts de soutien indirects, et on ne lit pas 6,54. Ici, il y a quelque chose qui va mal. Donc, c'est en 7% de ce budget total, mais dans le résumé du GNUD, c'est le pourcentage de 6,54, ce qui on comprend ces 7%. C'est pour cela que ça descend à 6,54%. Voilà comment le budget marche. Comme j'ai déjà dit, vous pouvez vérifier les erreurs. La première chose, c'est que vous devez vérifier les totaux, c'est-à-dire le total que vous retrouvez dans la première page avec le total que nous avons dans l'onglet résumé GNUD. Donc, si les deux coïncident, génial, il n'y a pas d'erreur. Mais par contre, si ces deux chiffres ne coïncident pas, il y a une erreur qu'il faut retrouver. Donc, vous pouvez analyser les calculs si vous cliquez sur chaque ligne, par exemple ici, vous pouvez voir ce qui est inclus, d'où viennent les montants totaux. S'il y a quelque chose qui manque, nous pouvons l'ajouter dans cette formule-là. Nous pouvons aller à ces sous-totales individuels et cliquer sur cette ligne pour nous assurer que tous ces articles ou ces points sont couverts. Les montants 1 dollar, par exemple, c'est quelque chose que l'on peut vérifier également. On peut retrouver des erreurs parce qu'on n'a pas sélectionné les bonnes catégories du génie. Nous devons regarder la liste et si nous retrouvons qu'il y a un item qui n'a pas deux catégories sélectionnées du génie, il faut que vous la sélectionniez. Et c'est comme ça que cette ligne sera comptabilisée, sera inclue dans le calcul. Également, nous avons une autre façon de découvrir des erreurs. Par exemple, en vérifiant la dépendance, si vous cliquez sur ce total-là, vous pouvez aller à l'onglet des formules et ici, vous voyez Trace Precedence, c'est-à-dire suivre les précédents. Donc, ça va nous donner, à travers les erreurs, cela va nous dire d'où vient ce total-là. Comme vous voyez, ce total vient de ces deux lignes-là. Si nous voulons retrouver l'information dans un plus grand détail, nous allons regarder toutes les lignes qui sont comprises dans cette erreur-là. Donc, voilà chaque ligne qui est comprise dans ce total. Par exemple, il y a des lignes qui sont manquantes, par exemple, c'est-à-dire que le chiffre ou le montant manque dans le calcul et nous devons le saisir. Par exemple, je vous montre. Supposons que l'on va afficher ce montant de façon manuelle, d'accord? Pas à travers la formule. Donc, je clique sur le total encore une fois et je clique sur Trace Precedents, précédent de suivi, ou suivre le précédent, pardon. Donc, ici, vous allez retrouver ces flèches, mais vous ne voyez pas les flèches dans cette ligne-là. Pourquoi? Parce que nous avons saisi ce montant de façon manuelle. Donc, voilà une autre façon de découvrir des erreurs. Mais ce n'est pas la façon standard que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser votre propre technique pour retrouver les erreurs. Vous pouvez utiliser votre propre style, mais avant de rendre le budget, assurez-vous de bien avoir utilisé les formules. Assurez-vous que toutes les formules soient correctes, d'accord? Donc, maintenant, je vais me pencher sur cette. Je vais m'arrêter ici et je vais repasser la parole à Deb. Je ne sais pas s'il y a des questions, etc. Merci. Merci, Naïm, de cette explication tellement claire et détaillée. Je n'ai rien à ajouter. Nous avons déjà couvert les aspects techniques et en matière de l'achèvement ou sur comment compléter le budget. Donc maintenant, on va ouvrir la réunion aux questions. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a déjà levé sa main. Anne-Marie, au micro. Vous avez la parole, Anne-Marie.
Ok, merci beaucoup, Déborah. Merci vraiment pour les explications. J'espère qu'on m'entend. Je vais parler en français. Voilà. Ma question, j'ai deux points que je voulais bien comprendre. Il y a un point, je ne sais pas si c'est la traduction qui a fait qu'on n'a pas bien compris, mais c'est une question qui est liée au père tiers de mission, je sais pas si, au DSA. Voilà. Pendant la présentation, il est ressorti que on devait se conformer au DSA en vigueur. Du moins, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on devait se conformer au DSA en vigueur au niveau du gouvernement. Donc, ma question, c'est si c'est une agence des Nations Unies qui reçoit le financement, est-ce qu'on doit toujours se conformer au DSA en vigueur au niveau du gouvernement ou au niveau des agences du système des Nations Unies? Voilà, les DSA en vigueur à d'autres niveaux. Ça, c'est ma première question. Et je voudrais aussi, ma deuxième question porte sur les types de catégories de dépenses. Je vous si c'est possible qu'on puisse revenir un peu sur la catégorie 3. Voilà, que j'ai vraiment pas bien perçu. Merci beaucoup. Thank you very much.
Merci beaucoup, Anna-Marie, de vos questions par rapport aux dépenses journalières, les per diem, ou les dépenses honoraires. Pour le personnel de l'ONU, on devrait utiliser les taux des dépenses journalières de l'ONU, du système de l'ONU, et pour les fonctionnaires qui reçoivent un salaire de la part du gouvernement, nous vous encourageons d'utiliser les taux des dépenses journalières établis par votre gouvernement. Et je crois que chaque situation de chaque pays peut être légèrement différente. Donc, nous serions ravis d'en parler en plus grand détail dans des réunions individuelles avec chacun d'entre vous, avec chaque projet du TPCC dans chaque pays. Concernant la catégorie des dépenses, je pense que vous demandez de davantage d'informations sur la catégorie 3. Est-ce que vous pourriez nous expliquer davantage sur votre question sur cette catégorie 3? Sur quoi porte votre question sur la catégorie 3 des dépenses?
OK, d'accord. Merci beaucoup, Dave. En fait, peut-être que je me suis trompée un peu des catégories. Mais ce que j'ai d'abord, on nous a présenté la catégorie 1, qui était la catégorie liée au, je vais dire comme ça, en résumant, aux frais du personnel. Voilà, aux frais du personnel. Donc ici, je voudrais savoir si dans ces frais de personnel-là, on y incluait également les consultants. Est-ce qu'on y inclut les consultants? Si ce ne sont pas des personnes qui sont en contrat permanent, quand je dis permanent, sur la durée du projet, est-ce que ces consultants-là, on les prend en compte dans la catégorie 1 des ressources ou bien dans cette catégorie 3-là? Voilà, dans cette catégorie 3 qui, je ne sais pas, ça qui m'a un peu échappé. Désolée. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre question. Je crois que pour la répondre, tous les détails sont dans l'explication écrite, mais il y a une section qui va décrire les coûts de personnel de manière très spécifique. Par exemple, dans la catégorie 1, les salaires et les bénéfices pour le staff national seraient inclus dans la catégorie 1. Et les services contractuels, ça veut dire donc où une personne est tout simplement embauchée, il y a un contrat de service, ces dépenses sont incluses dans la catégorie 4, services contractuels. Je suis en train de lire l'explication écrite que j'ai devant moi parce qu'on parle d'autres types de personnel, par exemple personnel temporaire, personnel qui travaille par exemple une seule journée pour une organisation spécifique. Dans ces cas-là, parce que ce n'inclut pas des contrats avec d'autres ou des sous-traitants, y compris des partenaires, parce que cela est inclus dans la catégorie 4 ou 6, selon le cas échéant. Mais bien sûr, peut-être, si vous êtes en train de travailler avec un consultant individuel pour un programme ou bien d'autres types de services de consultation, peut-être avec un contrat ou bien... Pardon, je suis en train de choisir les mots. Peut-être un consultant à travers une consultation ou bien à travers un contrat individuel de personnel. Je crois que il faudrait comprendre mieux les différentes modalités auxquelles vous faites référence et peut-être dans les sessions personnelles que nous allons organiser, on peut vraiment essayer de clarifier tous ces aspects spécifiques. Je ne sais pas si cela peut-être vous a fourni un peu une explication par rapport à votre question.
Oui, oui, je comprends que bon, il y a des aspects qu'on va aborder avec lorsqu'on sera dans les sessions rapprochées, voilà, de lancement. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Thank you very much.
Oui, merci. Merci Anne-Marie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être il y a des questions sur qui peut ou qui qualifie pour Aerium et lorsque cela correspond ou non, au quand est-ce que ça correspond ou non? Pour répondre à cette question, nous devons mieux comprendre les aspects individuels. S'il s'agit des fonctionnaires du gouvernement et les salaires de ces fonctionnaires. Si un individu reçoit un salaire, on peut payer un additionnel. On nous a demandé cela plusieurs fois dans notre projet. S'il s'agit d'une exigence pour qu'un fonctionnaire du gouvernement puisse participer à une réunion ou bien pour voyager, et selon les réglementations nationales de ce pays, nous vous demandons de regarder les explications et de comprendre ce qui est permis ou non selon vos réglementations et s'il y a quelque chose signé par l'ONU ou au niveau de l'ONU avec le gouvernement par rapport au paiement de ces frais de voyage. Donc, il faut avoir une copie de la politique gouvernementale par rapport à cette situation et mieux la comprendre pour savoir quelles sont les exigences dans cette situation. Et si vous avez une explication plus claire et vous voulez l'inclure ou l'ajouter? Quelle est la limite de pourcentage pour les coûts de personnel ou de staff? Encore une fois, cela dépend. Cela dépend de chaque projet individuel. Nous avons essayé de établir une limite claire, mais ce n'est pas très utile, on doit avouer, parce que peut-être le personnel qui va être recruté spécifiquement pour fournir du soutien de suivi et évaluation pour un projet, ou bien si les communications spécifiques et les activités et les exigences. Mais si on va fournir un guide ou des directives, je crois que c'est entre 20 et 30 %. Mais comme je viens de dire, ça dépend de chaque projet individuel, de quoi s'agit le projet, etc. Et c'est quelque chose qu'on va discuter à l'heure d'avoir une réunion individuelle pour chaque projet. Nous avons quelques minutes de plus, donc s'il vous plaît, allez-y et posez vos questions, levez la main. Une question de Florence. Le document que Naïm a mentionné, c'est notre modèle de budget et l'explication pour le budget. Tous ces documents sont disponibles dans notre site web. Je vais vous montrer. Peut-être mes collègues peuvent inclure les liens sur les chats. Oui, voilà. Et je vais partager mon écran également pour vous montrer. Ça, c'est notre site web qui est sur le chat. Et si vous allez au troisième tour de programmation et vous trouvez FPF, financement d'un projet flexible, ça c'est ce que tous nos collègues en ligne aujourd'hui, ça c'est votre modalité de financement. Oui, FPF, financement de projet flexible. Donc, vous pouvez voir l'explication en français et en anglais, le modèle en anglais et en français. Nous avons le annexe A aussi en anglais et en français. Si vous cliquez ici, vous pouvez le télécharger et le consulter ici dans votre fichier. Ici, si vous cliquez sur le fichier, vous allez voir où le document se trouve et vous pouvez ouvrir le document là-dessus. Voilà l'explication en anglais Vous allez la trouver pour je peux l'ouvrir directement. Voilà, voilà le document que Naïm a partagé. Et maintenant, permettez-moi de revenir sur le site web. L'explication, si vous cliquez anglais ou français, vous allez trouver cette explication écrite. Oui, ce sont toutes les directives, les indications du budget. Et à la fin du document, vous pouvez voir toutes les catégories de rapports, les explications et ce que vous devez inclure sur chaque catégorie. Donc, voilà les deux documents qui sont très importants et vous pouvez les trouver ici où je vous montre. Leopoldo, Leopoldo a levé la main. Bonjour, Leopoldo Tenorio de Sedena du Mexique. Est-ce qu'on peut accéder à toute l'information en espagnol? C'est pour avoir plus de clarté et objectivité pour les projets. Merci. Malheureusement, le secrétariat n'a pas la capacité de traduire vers l'espagnol, malheureusement, pour tous les modèles. Comme vous le savez, le coût de traduction est très élevé. Donc, nous sommes en train d'utiliser seulement l'anglais et le français parce que ce sont les langues d'émission que nous soutenons. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de le passer par un système d'intelligence artificielle comme DeepL ou oui, oui, une traduction automatique. Mais nous savons bien que cela ne traduit la langue de manière très spécifique et pas notamment pas celle qui est liée au genre. Donc, on n'a pas la capacité de le traduire vers l'espagnol, mais nous recevons les produits en anglais et ça, c'est la situation, malheureusement, la situation du secrétariat et notre capacité par rapport aux langues. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous avons quelques minutes. Je crois que non. Est-ce que c'est possible d'avoir le Prodoc en espagnol? Tout simplement le Prodoc. Le reste, on peut le traduire. L'Excel, c'est de la mathématique, mais le Prodoc, le document initial, est-ce que c'est possible de l'avoir en espagnol? On peut le traduire en utilisant la traduction automatique et vous envoyer une copie. Nous avons une souscription à DeepL, donc on peut le faire, mais nous n'avons pas la capacité de. Nous n'avons pas la capacité de recruter des traducteurs spécialisés pour faire ce travail dans cette étape. Parce que bien sûr, nous avons les lignes de temps, etc. Peut-être ONUFEM au Mexique pourrait vous donner du soutien de manière opportune. Nous n'avons pas de temps pour plus de questions. On doit conclure parce que nous avons une autre réunion. Merci beaucoup pour votre participation, pour votre attention et pour vos questions. Et si jamais vous avez d'autres questions, on peut les aborder dans les réunions avec vous tous. Merci Anne-Marie. Merci. Et merci à tous nos collègues qui sont en ligne. Merci aux interprètes et nous avons hâte de vous revoir demain dans la séance de communication avec nos collègues Ivy. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, au revoir.